pour poursuivre nos conversations, nous lirons dans 2 Samuel, au chapitre 14 et au verset 28. Absalom demeura 2 ans à Jérusalem sans voir la face du roi. Il fit demander Joab pour l'envoyer vers le roi. Mais Joab ne voulut point venir auprès de lui. Il le fit demander une seconde fois, et Joab ne voulut point venir. Absalom dit alors à ses serviteurs, « Voyez, le champ de Joab est à côté du mien, il y a de l'orge, allez et mettez-y le feu. » Et les serviteurs d'Absalom mirent le feu au champ. Joab se leva et se rendit auprès d'Absalom dans sa maison et lui dit, « Pourquoi tes serviteurs ont-ils mis le feu au champ qui m'appartient ?» Absalom répondit à Joab, « Voici, je t'ai fait dire, viens ici et je t'enverrai vers le roi afin que tu lui dises, « Pourquoi suis-je revenu de Geshur ? Il vaudrait mieux pour moi que j'y fusse encore. Je désire maintenant voir la face du roi, et s'il y a quelque crime en moi, qu'il me fasse mourir. » Joab alla vers le roi et lui rapporta cela. Et le roi appela Absalom qui vint auprès de lui et se prosterna la face contre terre en sa présence. Le roi baisa Absalom. Nous laisserons de côté toute l'immoralité de cette histoire, car il est vrai que c'est d'une manière immorale que Absalom a agi à l'égard de Joab pour parvenir à ses fins. Mais nous pouvons quand même prendre exemple de ce qui s'est passé là pour nos relations avec Dieu. Si Absalom voulait voir la face du roi, il le désirait dans un mauvais but, et il l'a prouvé par la suite, puisque lorsqu'il a été reçu par le roi et qu'il a repris contact avec lui, il en a profité pour essayer de se faire publicité et de dégommer le roi et de se mettre à sa place. Il avait des arrière-pensées mauvaises. Son action a été mauvaise, méchante. Maintenant, en ce qui nous concerne dans nos relations avec Dieu, les choses sont un peu en sens contraire. Ça n'est pas nous qui voulons à tout prix voir la face du roi, mais c'est le roi qui voudrait nous avoir en sa présence. Dieu désire ardemment notre communion. Je suis persuadé plus infiniment que ce que nous pouvons le penser. Dieu désire ardemment notre communion, il désire nous avoir en sa présence. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il sait que non seulement notre capacité vient de lui, que nous ne pouvons rien donner, rien faire, que nous n'ayons reçu de sa part ou dont nous n'ayons reçu la capacité. Dieu sait que c'est seulement en sa présence que l'onction divine peut reposer sur nous, que nous pouvons être irradiés de sa lumière, pénétrés de son pouvoir, de sa sagesse, de ses conceptions pleines d'intelligence à l'égard des choses. Dieu sait tout ce que nous perdons en manquant d'être en sa présence. Il sait que notre pauvreté, notre misère, notre incapacité, notre ignorance, notre impuissance de faire quoi que ce soit, se trouve dans le fait de notre non-contact avec lui. Et c'est pourquoi Dieu désire ardemment nous avoir en sa présence. Et nous le savons, par la parole de Dieu qui nous dit dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 3 et au verset 20, je crois, si je me souviens bien, ces paroles du Seigneur Jésus, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. » Le Seigneur se tient à la porte de notre cœur et il frappe. Nous savons que nous avons besoin de communion avec Dieu. Nous savons que le Seigneur nous réclame. Qui est-ce qui ne le sait pas parmi nous? Nous savons, nous, de temps en temps, nous avons dans notre cœur cette répréhension de l'esprit qui nous condamne parce que nous ne sommes pas allés auprès du Seigneur comme nous aurions dû le faire. Quel est celui d'entre nous qui n'a pas subi cette réprobation de l'esprit, cette accusation de l'esprit? Tu n'es pas venu dans la présence du Seigneur. Tu ne t'es pas tenu dans la présence du Seigneur. Tu es paresseux. Tu ne pries pas suffisamment. Tu ne rencontres pas assez le Seigneur. Mais tu ne t'approches pas suffisamment de lui. C'est ça. Je me tiens à la porte et je frappe. Le Seigneur nous réclame. Il nous appelle. Mais si nous ne répondons pas, alors qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il fait ce que Absalom a fait, il met le feu à notre champ. C'est-à-dire qu'il permet qu'il arrive, soit dans notre propre vie, dans l'église, dans le mouvement, des tribulations, des chutes, des difficultés, des misères, pour que nous allions vers lui et nous lui disions, mais Seigneur, pourquoi cela? Eh oui, vous savez, je suis convaincu que tous les déboires que nous subissons à l'heure actuelle, eh bien, ont pour source le fait que Dieu nous veut auprès de lui. Je suis persuadé que si nous avions davantage cherché la face de Dieu, des quantités de difficultés que nous éprouvons, des chutes, des virements misérables de certains frères au milieu de nous, des catastrophes dans certaines églises qui ont été entraînées ou divisé par le fait de la chute du serviteur, tout cela ne serait pas arrivé parce que si nous étions tenus dans la face de Dieu, Dieu nous aurait avertis. Nous aurions connu les choses à l'avance et nous aurions pu y parer. Voilà. Nous n'avons pas suffisamment cherché la face de Dieu. Et ici, j'ouvre une parenthèse. Personnellement, j'ai fait plusieurs missions à Marseille, à La Rose. J'ai vu le comportement un peu superficiel et léger du frère et de certains gens. J'ai participé à un banquet de tous les frères du coin à la fin de la mission. Ça ne m'a pas tellement plu, ça m'a même pas plu du tout, mais je n'ai pas vu plus loin que ça. J'ai parlé à Claude et je lui ai dit, tu sais, je sais pas, mais il me semble qu'il serait souhaitable que tu fasses venir de temps en temps, et même le plus souvent possible, des frères comme le frère Vivier, le frère Robert, qui sont tes voisins, pour faire quelques missions d'édification chez toi, parce que, je sais pas, ça me paraît un peu léger. Mais je n'ai pas vu plus loin que ça, un peu léger. Mais je me dis que si j'avais passé suffisamment de temps dans la présence du Seigneur, j'aurais reniflé que ça sentait le brûler. Le Seigneur aurait pu me parler par son esprit et me dire, ton collègue, il vit dans le péché, dans l'adultère. J'aurais pu peut-être découvrir cela avant que la chose se soit ébruitée et que le frère ait pu se ressaisir, se sortir de là, parce que j'aurais pu le reprendre. Et dans quantités et quantités de drames qui se passent au milieu de nous, des choses qui nous affligent et qui affligent encore plus le Seigneur, qui freinent l'œuvre de Dieu, qui la brisent, qui la détruisent, eh bien, nous le savons, quand ça éclate, c'est comme le cancer du foie, hein. Quand on s'aperçoit qu'il est là, c'est terminé, c'est fini, il n'y a plus moyen de moyenner, il n'y a pas de soins à donner, c'est la fin, c'est terminé. Eh bien, nous sommes dans cet état, et je suis persuadé qu'il y a là, actuellement, dans tout ce qui se produit chez les uns, chez les autres, le comportement de celui-ci, de celui-là, etc., etc., eh bien, c'est Dieu qui met le feu aux champs, c'est lui qui soulève ces choses, qui les manifeste, pour que, finalement, nous allions vers lui et nous lui disions, Seigneur, arrête. Il y a, de la part de Dieu, des possibilités de laisser aller les choses, de les laisser éclater, se manifester d'une manière dramatique pour que nous puissions finalement un peu entendre qu'il est à la porte et qu'il frappe. Hein? Il est là, il est là, il nous réclame, il nous réclame. Et non seulement il nous réclame au travers de ces choses, mais je suis persuadé que sa réclamation va au-delà de ces choses. Elle va dans la capacité ministérielle de chacun de nous, car il est certain que si nous passions le temps que Dieu voudrait que nous passions dans sa présence, eh bien notre capacité de ministère serait infiniment enrichie. C'est là le dessein de Dieu. Nous nous contentons souvent de fois d'une faible onction. Et c'est parce que nous n'avons qu'une faible onction que nous avons une faible révélation de la parole de Dieu. Car c'est de l'onction divine que nous recevons la révélation de la parole de Dieu. C'est elle, l'onction de Dieu, qui nous révèle toutes choses. C'est l'esprit de vérité qui nous conduit dans toute la vérité. Et si nous n'avons qu'une faible onction, nous n'aurons qu'une faible connaissance, une faible pénétration dans la parole de Dieu. Et nous pourrons, non peut-être pas prêcher les hérésies, mais ne prêcher que des superficialités, et ne pas aller au fond des choses, et ne pas permettre aux gens de faire des progrès qu'ils devraient faire. Hein? Tout cela se tient, se touche. Et Dieu qui connaît ces choses, qui sait cela, eh bien, il frappe, il réclame. Je sais pas si cela ne vous est jamais arrivé, mais moi, ce qui m'a le plus éprouvé, affligé dans mon ministère, c'est d'entendre frapper le Seigneur à la porte et de ne pas être capable d'ouvrir. Car nous ne sommes pas toujours capables d'ouvrir. En tout cas, moi, je le confesse et je l'avoue. Et je m'humilie devant le Seigneur de ne pas savoir toujours maintenir ce contact, cette communion avec Dieu, dans l'intensité, dans la durée du temps que Dieu voudrait que nous passions, que je passe devant lui. Alors, les choses en sont là. Je crois que à force de frapper,
et de ne pas avoir eu de réponse favorable, Dieu a mis le feu à notre champ. Et ce champ, c'est le corps pastoral. Je ne parle pas là de ce qui concerne nos assemblées, nos églises, notre travail, mais je parle de ce qui concerne le corps pastoral. Et je m'explique là-dessus. Il est impossible que nos assemblées soient en bonne santé si le corps pastoral est malade. Il n'est pas possible que l'œuvre de Dieu se fasse dans sa plénitude comme Dieu voudrait qu'elle se fasse si le corps pastoral n'est pas à même de répondre à ce que Dieu réclame. Ça, c'est un fait absolu. Mais la solidarité dans ce domaine, elle joue. Nous sommes tributaires les uns des autres et je suis persuadé que tout ce qui se passe au niveau du corps pastoral à l'heure actuelle, c'est voulu par Dieu qui met le feu au champ pour que nous réagissions. Joab a réagi. Quand il a vu son champ d'orge brûler et qu'il a su que c'était les serviteurs d'Absalom, il est allé trouver Absalom. Il a fait ce qu'il voulait. Vous savez, ça c'est quelque chose qui réussit. Je vous cite une petite anecdote. Nous avons à Toulouse une sœur qui, avant de se convertir, avait très mauvais caractère. Elle était boudeuse, à l'excès. Et elle avait la chance d'avoir un mari en or. Un mari d'une patience extraordinaire, d'une bonté magnifique, et d'une jovialité extrême. Et voilà qu'un jour, je ne sais pas ce qui s'est passé, elle a eu une discussion avec son mari lui a dit une vérité, ça lui a pas plu, et elle a commencé à bouder. Un jour, deux jours, trois jours, quatre jours, cinq jours, toute la semaine, elle a boudé. Le samedi, le mari était là à la maison. Il est entré dans la chambre, il a ouvert l'armoire, et il a commencé à tirer les piles de linge et à ficher ça en l'air, là. Elle l'a regardé pendant un moment, et puis, finalement, il lui a dit, mais qu'est-ce que tu cherches? Ah, il lui a dit, c'est pas malheureux, je l'ai trouvé, c'est ta langue. Oui. N'est-ce pas? Dieu agit à notre égard de cette manière avec quelquefois rudesse pour nous amener à réaliser ce qu'il attend de notre part. Bah, il faut que nous soyons pleinement persuadés, pleinement convaincus que lorsque Dieu dit qu'il cherche un homme qui élève une muraille, qui se tienne à la brèche et qui intercède, quand il dit qu'il se tienne à la brèche, cela veut dire qu'il réclame une présence soutenue. Se tenir à la brèche, c'est non seulement se défendre contre l'ennemi qui arrive, mais c'est veiller à ce que l'ennemi ne nous surprenne pas. Se tenir à la brèche, c'est quelque chose de constant, quelque chose qui dure, c'est pas quelque chose de passager. Et Dieu veut que nous ayons avec lui, n'est-ce pas, ce contact continuel. Et ce contact continuel, nous ne pourrons le réaliser, nous ne pourrons l'avoir que lorsque nous aurons pris l'habitude de passer du temps en abondance devant le Seigneur et de nous trouver en communion véritable avec lui. Bien souvent, nous commettons cette erreur de penser que nos moments de prière sont des moments de communion avec Dieu. C'est pas toujours vrai. Ça n'est même pas vrai du tout. Qu'est-ce que c'est que la communion? La communion, c'est quelque chose de mutuel. Or, nous ne sommes pas des gens qui établissons avec Dieu une mutualité, mais une unité, c'est-à-dire que nous venons vers le Seigneur, nous débitons notre chapitre, nous exprimons notre prière, nos supplications, nos besoins, etc. Et quand nous avons terminé, un point final, on se lève et on s'en va. Dieu voudrait que notre communion soit mutuelle. Quand Jésus dit qu'il est à la porte et qu'il frappe, il dit si quelqu'un entend ma voix, c'est-à-dire si quelqu'un comprend que c'est moi, entend ma voix, et m'ouvre la porte, j'entrerai, je souperai avec lui, et lui avec moi. C'est bien ça qui est écrit, hein? Moi, je souperai avec lui, mais lui soupera avec moi. Ça, c'est la mutualité. Nos contacts avec Dieu ne doivent pas être des contacts à voix unique, à sens unique. Il faut qu'il y ait l'aller-retour. Il faut qu'il y ait la dualité. Et c'est là que se place la difficulté. Quand nous considérons, par exemple, le cas de Moïse, Dieu lui a demandé un jour de monter sur la montagne parce qu'il avait quelque chose à lui dire. Bon, Moïse est monté sur la montagne, il s'est assis là, dans la salle d'attente, et il a attendu que Dieu ait le bon vouloir de venir le voir. Et il a attendu 7 jours et 7 nuits. Là, il a attendu que Dieu vienne. Dieu lui avait donné rendez-vous, il y est venu, il s'est installé et il a attendu que Dieu vienne. Dieu n'est pas à notre disposition. Je ne sais pas si c'est relatif à notre mouvement de Pentecôte. Je ne connais pas les autres mouvements. Je n'ai fréquenté rien d'autre que la Pentecôte. Moi, je ne suis pas au courant de ce qui se passe ailleurs. Mais je me demande si c'est relatif à notre mouvement de Pentecôte de considérer Dieu comme notre bon à tout faire, comme quelqu'un qui est à notre service. On l'appelle, il doit venir tout de suite. Mais ça, c'est pas vrai. C'est pas nous qui l'appelons et Dieu doit nous répondre et venir tout de suite. C'est lui qui nous appelle. C'est lui qui frappe à la porte. Et nous, nous devons être là à attendre son bon vouloir, qu'il vienne nous visiter. Dieu n'est pas à notre disposition, c'est nous qui devons être à la sienne. Ça, c'est encore une conception qui, je pense, manque assez souvent parmi les serviteurs de Dieu. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec cela, mais moi je suis persuadé que c'est là la réalité. Dieu n'est pas à notre service, c'est nous qui sommes au sien. Quand le Seigneur Jésus a choisi ses disciples, il est dit, il les appela afin de les avoir avec lui, pour les enseigner, pour les instruire. Je ne sais pas ce qui s'est passé quand le Seigneur a appelé ses disciples, mais il les a peut-être fait attendre avant d'ouvrir la bouche et de s'exprimer. Et les disciples ont été là, certainement dans le silence, attendant que le Maître s'exprime. C'est lui le Maître, c'est lui le Seigneur, et nous, nous sommes ses serviteurs. Il y a donc cette pensée qui doit demeurer continuellement dans notre esprit, c'est que la volonté de Dieu, c'est que nous nous tenions en sa présence, parce que c'est seulement dans sa présence que nous pouvons être enrichis abondamment. C'est seulement dans la présence de Dieu que nous pouvons recevoir ce dont nous avons besoin pour faire face à toutes les éventualités que nous rencontrons dans le ministère. C'est de lui que nous recevons la capacité, c'est lui qui ouvrira notre intelligence. Dans l'Épître aux Romains, au chapitre 12, nous lisons, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Saint, c'est en quelque sorte notre consécration, notre offrande au Seigneur. Nous lui offrons notre corps et nous le lui offrons pour qu'il l'utilise. Nous nous offrons à lui, non pas pour le servir, mais pour qu'il se serve de nous. Nous nous livrons à lui comme des instruments. Paul dira dans cette même épître aux Romains au chapitre 6, « Offrez vos membres comme des instruments de justice ». Il est remarquable que cette offrande est une offrande vivante. Hein? L'offrande morte, c'est celle que Jésus a offerte. Lui, il a offert sa vie, il s'est livré à la mort. Nous, nous nous offrons vivants à Dieu, non pas pour mourir, mais pour qu'il se serve de nous, qu'il nous utilise, qu'il nous emploie, qu'il agisse au travers de nous. Et il est certain que cela doit être une offrande sainte, un sacrifice vivant et saint. Et ensuite, il est dit ceci, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Il y a une négation, « Ne vous conformez pas au siècle présent. » Nous n'allons pas considérer ce que cela veut dire, parce que cela nous entraînerait infiniment loin. Mais prenons-le seulement dans le rapport de notre service. Le siècle présent, quel qu'il ait été, que ce soit le premier siècle, le deuxième ou le vingtième, a toujours cherché chez les hommes la culture de l'intelligence, la science, le savoir, les grosses têtes. Ne vous conformez pas au siècle présent, c'est pas cela que ce que Dieu veut. Mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. C'est-à-dire, ayez une intelligence transformée, non pas un intellectualisme selon le monde, capable d'enregistrer, de se remplir la tête, car quand bien même je connaîtrais la parole de Dieu par cœur et capable de la réciter depuis la Genèse à l'Apocalypse aller et retour, eh bien, ça ne changera rien à rien. C'est pas cela que Dieu veut. C'est la compréhension de sa parole, la connaissance de sa volonté qui est contenue dans sa parole. Et il faut le reconnaître, une intelligence renouvelée pour concevoir les mystères de la parole de Dieu. Elle est d'une richesse extraordinaire. Et il est certain que même après des dizaines d'années de méditation de la parole de Dieu, avec le secours du Saint-Esprit et toutes sortes de révélations dans ces mystères de la parole de Dieu, nous ne la connaîtrons encore que très superficiellement. Nous serons certainement étonnés dans le ciel quand le Seigneur nous révélera toute la richesse de sa parole. Il y a des trésors infinis, et cela, c'est pas l'intelligence qui peut le concevoir. C'est seulement une intelligence renouvelée, une intelligence qui possède l'onction de l'Esprit, l'onction divine, qui enseigne toutes choses, qui permet de comprendre, de concevoir. Alors, à l'égard de la parole de Dieu, nous avons besoin du renouvellement de cette intelligence. Comment pourrons-nous avoir une intelligence renouvelée si nous n'avons pas conscience que c'est là notre nécessité? Et si, n'ayant pas conscience que c'est là notre nécessité, nous n'allons pas vers le Seigneur pour lui réclamer de nous accorder cette grâce, de nous donner cette capacité de concevoir, de comprendre sa parole. Si nous voulons avoir un exemple à ce sujet, lisons seulement le psaume 119. Dans ce psaume 119, nous avons conscience de la manière dont David considérait la valeur de la parole de Dieu. L'expérience malheureuse qu'il avait faite avec l'Arche de l'Alliance lui a fait comprendre quelle était la nécessité de connaître la parole. Et c'est la raison pour laquelle il adressera dans le psaume 119 cette prière: Seigneur, ouvre mes yeux afin que je voie les richesses de ta loi. Et à plusieurs reprises, il réclamera au Seigneur de lui donner cette intelligence, cette compréhension de sa parole. Le désir de son âme, c'est de pénétrer les profondeurs de cette parole de Dieu, de la posséder d'une manière absolue, de plus en plus parfaite, parce qu'il sait que c'est seulement dans ces conditions qu'il pourra être éclairé à l'égard de la volonté de Dieu et qu'il pourra l'accomplir pleinement et parfaitement. Alors déjà, dans ce domaine de notre contact avec la parole de Dieu, nous avons besoin de communier avec Dieu. La parole de Dieu ne devrait jamais être ouverte sans que notre recherche de la communion avec Dieu soit manifeste. Sachant que si nous sommes seuls et livrés à notre seule intelligence pour concevoir la parole de Dieu, nous n'y verrons pas grand-chose. Mais si, dans la présence de Dieu, l'onction divine nous est donnée, l'esprit de vérité pourra nous éclairer, et je suis persuadé que vous avez fait à cet égard maintes et maintes expériences. Mais ce n'est pas parce que nous avons fait maintes et maintes expériences dans ce domaine que cela est terminé. Au contraire, cela doit continuellement se poursuivre. C'est constamment que l'onction divine doit nous révéler, nous éclairer, nous faire pénétrer plus avant dans les vérités, les richesses de la parole de Dieu. Pour ce qui est extérieur à la parole de Dieu, concernant la volonté de Dieu, nous savons que la volonté de Dieu, elle est d'une part exprimée par sa parole, mais elle est aussi d'autre part extérieure à sa parole. Dieu peut avoir à l'égard de chacun de nous des desseins spéciaux particuliers, des voies particulières, dans un moment donné, des exigences spéciales, un travail particulier, une direction particulière. Tout cela, nous ne le trouverons pas dans la parole de Dieu. Mais Dieu pourra nous le communiquer si nous nous tenons en sa présence. Si je me tiens dans la présence de Dieu, pour que Dieu renouvelle mon intelligence à l'égard de sa parole, je dois aussi me tenir devant Dieu pour lui réclamer de me rendre toujours plus accessible à la voix de son esprit, toujours plus perméable à l'action de son esprit, afin que je possède cette oreille de disciple, cette capacité d'entendre la voix du Seigneur et de savoir ce qu'il attend de ma part. Bien souvent, nous commettons des erreurs de direction, nous ne faisons pas ce que le Seigneur attend de nous. Pourquoi? Eh bien, parce que nous ne nous étant pas tenus devant la face de Dieu, n'ayant pas été à l'écoute du Seigneur, il n'a pas pu nous communiquer ce qu'il aurait voulu nous communiquer, il n'a pas pu nous renseigner, il n'a pas pu nous réclamer, nous demander, il n'a pas pu nous diriger, et ainsi, des choses que le Seigneur aurait voulu que nous fassions, des particularités qu'il avait décidées à notre égard, nous ont échappé, et les choses n'ont pas été réalisées, n'ont pas été faites. Nous avons besoin de ce temps devant la face de Dieu. C'est une nécessité absolue. Et jamais, jamais, je suis persuadé, nous ne passerons trop de temps devant le Seigneur. Déjà, pour la connaissance de la parole de Dieu, déjà pour la connaissance de la volonté de Dieu, quand l'apôtre Paul dit, dans le premier chapitre de l'Épître aux Colossiens, qu'il prie pour que ces gens-là soient remplis de la connaissance de Dieu en toute sagesse et intelligence spirituelle, afin de marcher d'une manière digne du Seigneur et de lui être entièrement agréable, c'est-à-dire d'être toujours prêt à faire tout ce que le Seigneur a décidé pour nous. Pour faire tout ce que le Seigneur a décidé pour nous, il faut que je le sache. Si je ne le sais pas, je ne le ferai pas. Alors, nous pouvons peut-être nous cacher derrière cette feuille de persil, n'est-ce pas, en disant, bon ben, je ne le savais pas, j'ignorais que le Seigneur voulait que je fasse ça, alors, ma foi, je ne suis pas coupable puisque je n'en savais rien. Mais si je ne suis pas coupable parce que je n'ai pas su, mais je suis coupable parce que je n'ai pas su, parce que je ne suis pas allé à la source, parce que je n'ai pas été dans les conditions voulues pour savoir ce que Dieu voulait que je sache. Donc, notre condition de serviteur de Dieu est une condition de consécration totale, et nous en avons un exemple avec le Seigneur Jésus. C'est certainement le modèle le plus excellent que nous puissions trouver dans la parole de Dieu.
Jésus, s'il disait « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père qui est dans les cieux », il était assuré, lui, de toujours savoir quelle était la volonté de Dieu à son égard. Il était toujours assuré de le savoir. Pourquoi ? Parce qu'il savait se tenir devant lui. Quand il lui est demandé, par exemple, de monter à Jérusalem, ses frères lui demandent de monter à Jérusalem et d'aller faire à Jérusalem les miracles qu'il avait fait à Capernaum. Bon. Jésus répond à ses frères, « Mon heure n'est pas encore venue. » Pourquoi son heure n'était pas encore venue ? Parce qu'il n'avait encore rien reçu de la part de Dieu à l'égard de cette chose-là. Quand il lui est demandé aux noces de Cana d'intervenir parce qu'on n'avait plus de vin, il dit « Mon heure n'est pas encore venue. » J'ai pas reçu de direction à ce sujet. Mais comme il était continuellement en communion avec le Père, entre-temps, le Père lui a montré ce qu'il fallait faire selon que Jésus dit « Je fais ce que le Père me montre ». Pas les œuvres que je fais sont celles que le Père me montre. Il parlait les paroles que le Père lui demandait de parler, il faisait les œuvres que le Père lui montrait de faire. Bon. Et c'était là sa situation, sa position continuelle. Et c'est à cause de cette position constante qu'il pouvait dire « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père qui est dans le ciel ». Le Seigneur n'avait d'autre objet, d'autres soucis et d'autres inquiétudes dans le cours de sa vie que d'être en communication constante avec le ciel pour savoir ce qu'il devait faire. Et cette communication constante, il pouvait la posséder parce que à certains moments, il se tenait devant la face de Dieu, il renouait le contact avec Dieu, le dialogue avec le Père, et ainsi il pouvait établir entre Dieu et lui cette communication continuelle par le moyen de laquelle Dieu pouvait constamment lui faire connaître sa volonté. Et ça, je crois que c'est quelque chose dont nous avons particulièrement besoin. Nous en avons besoin dans tous les domaines de notre ministère. Je ne sais pas ce que vous ressentez, vous, mais personnellement, je me sens d'une pauvreté extraordinaire dans ce domaine de l'acuité spirituelle, dans le fait d'être capable de permettre à l'Esprit de Dieu de me communiquer tout ce qu'il voudrait me communiquer et que j'aurais besoin de savoir. Je sens que cela me fait défaut d'une manière extraordinaire. Je me dis, dans tel domaine, là, si tu avais eu l'oreille exercée, si tu avais eu cette acuité, si tu avais eu cette perméabilité, cette capacité de contact avec l'Esprit de Dieu, eh bien, il t'aurait averti, il t'aurait dit. C'est là des choses qui me sont nécessaires dans le ministère. J'étais dans le début du ministère, et du ministère à Toulouse en particulier, deux expériences à ce sujet. 12 individus qui ont voulu s'introduire dans l'Église, ou plutôt que les chrétiens et les principaux chrétiens voulaient s'introduire dans l'Église. Ils voulaient à tout prix que je les baptise.
Un à la suite, un de l'autre, à des années d'intervalle.
Et quand il a été question de baptiser ces gens,
je devais certainement à ce moment-là être très en contact avec le Seigneur. L'Esprit de Dieu m'a carrément dit non. Sans m'expliquer pourquoi, mais non. Et un non catégorique et formel. Bon.
Pour maintenir ce nom, j'ai dû subir l'opposition des membres les plus influents de l'Église.
Et pour l'un de ces individus, j'ai dû même mettre mon ministère en jeu. Je leur ai dit, écoutez, moi je regrette, cet individu-là, je ne le baptise pas. Et si vous voulez le baptiser, alors vous irez chercher un pasteur où vous voudrez, moi je vous tire ma révérence. Voilà. Non, mais, je regrette, mais je marche pas. Bon, alors, devant ce refus aussi net et aussi catégorique, ils ont cédé. Mais par la suite, nous avons vu, nous avons touché du doigt ce qu'il en était. Le premier est un bonhomme qui était venu dans l'église avec sa femme et ses gosses, et qui, au bout de quelque temps, après le refus du baptême, a trouvé une jeune fille qui venait aux réunions depuis 2 ou 3 fois. Il l'a ramassée, cette fille, il est parti avec elle, et on n'a jamais plus su où il était.
Le deuxième, celui pour qui j'ai eu le plus de difficultés, est un gars qui se faisait passer pour un converti de premier ordre, qui voulait servir le Seigneur et qui était prêt enfin à tout, quoi. Et voilà qu'un lundi après-midi, j'ai vu arriver 2 flics en civil. Ils m'ont appelé, j'ai discuté avec eux et ils ont sorti une photo de leur portefeuille après m'avoir montré leur carte de la sûreté, d'agent de la sûreté. Ils m'ont dit, vous connaissez ce monsieur? C'était le monsieur en question. Alors ce monsieur en question, c'était un souteneur. Il s'était accoquiné avec des familles de l'église, et avec l'une des filles de l'église, il est allé visiter une malade infirme. Il a repéré les lieux et il n'a rien trouvé de mieux que d'y revenir tout seul et de faire main basse sur tout ce qui avait de la valeur. Alors les policiers recherchaient le bonhomme et ils ont su que ce bonhomme avait été reçu dans les familles chrétiennes. C'est pour ça qu'il est venu me trouver. Et il m'a dit, avertissez ces gens, elles ont des filles, ces dames. Dites-leur que ça risque de leur coûter cher et qu'elles risquent de retrouver leurs filles quelque part en Afrique ou dans une maison fermée. Voilà. Ah oui. Moi, je connaissais pas les bonhommes, je ne savais pas, jusqu'à la fin, je n'ai pas su pourquoi, j'ai dit non. Mais j'ai dit non. Et j'ai dit aux chrétiens, écoutez, je regrette, moi, le Seigneur me dit de dire non. Il me dit de refuser. Alors, je regrette, mais je ne peux pas vous obéir à vous. Moi, je suis là pour obéir à Dieu, il me dit non, je dis non. Si je me trompe, vous le verrez, mais je ne crois pas. Ainsi, nous avons besoin de cette communication. Et pourrions citer des quantités et des quantités d'exemples où cette communication nous a manqué et où cette communication nous manque encore. Alors, je crois qu'il nous faut la désirer, cette communication. Il nous faut la vouloir à tout prix. Nous allons continuer avec Apocalypse 3. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, si quelqu'un entend ma voix, il nous faut reconnaître la voix de Dieu, la voix du Seigneur, la voix de l'Esprit. Il y a un problème qui se passe dans notre vie, c'est de savoir discerner ce qui vient de l'Esprit de Dieu et ce qui vient de notre imagination. Ça qui est difficile. Comment pourrons-nous trancher et reconnaître ce qui vient de l'Esprit et ce qui vient de notre imagination? Eh bien, je crois que la seule possibilité de reconnaître ce qui vient de l'Esprit et ce qui vient de notre imagination, c'est la persistance de notre communion avec Dieu, c'est l'habitude que nous aurons de dialoguer avec Dieu et de recevoir les communications de Dieu. Je vous ai cité tout à l'heure l'exemple de Samuel. Dieu pouvait frapper à la porte de Samuel. Il pouvait, dans la nuit, dire « Samuel, Samuel !» Samuel se levait, il partait à la chambre d'Élie, et « Tu m'as appelé ?» Et il dit « Non, je t'ai pas appelé, je dors, moi. » Jusqu'à ce qu'il sache que c'était Dieu. Car quand Élie lui a dit « Ce n'est pas moi qui t'appelle, je ne t'ai pas appelé. » Bon, Samuel est retourné se coucher dans son lit. Alors, Jeanne d'Arc n'était pas encore arrivée, mais il aurait pu dire, je suis comme elle, j'entends des voix. Il aurait pu se demander, d'où ça vient? Est-ce que c'est moi qui rêve? Est-ce que c'est mon imagination? D'où ça provient? Bon, il n'en savait rien, il était tout à fait ignorant de ce fait. Mais quand Élie l'a instruit et lui a dit, quand tu entendras appeler ton nom, tu diras, me voici Éternel, parle, ton serviteur écoute. Samuel a fait cela. Dieu lui a parlé. Et dès ce moment, Samuel a pris conscience de ses possibilités de contact avec Dieu. Et il a été habitué à entendre la voix de Dieu et à la reconnaître. Quand Dieu lui a parlé au sujet de Saül et lui a dit, voici, il y a un homme qui cherche ses ânesses, il va venir là, tu l'oindras comme roi sur Israël. Samuel a entendu la voix, il n'a pas cru que c'était son imagination, il ne s'est pas imaginé que ça lui venait comme ça dans son esprit. Non, non, il savait que c'était Dieu qui lui parlait. Quand il est allé chez Isaïe pour oindre l'un des fils, il a agi d'abord d'une manière humaine, quand il a vu le beau et grand Aminadab. Il a dit, c'est lui. C'est lui, certainement, c'est un beau gars, c'est un type représentatif. Bon, Dieu lui a dit non, c'est pas lui. Et à chaque fois que Dieu a dit non, il a entendu que c'était non, il savait de quoi il s'agissait. Mais Le Saint-Esprit a su lui dire, il y en a un autre, il n'est pas ici. Et quand la ville est venue, l'Esprit de Dieu lui a dit, c'est celui-là. Il l'a entendu, il était habitué. Alors, je crois que nous avons besoin de cela, de reconnaître la voix. C'est une nécessité, et nous devons prier pour cela. Je ne sais pas si vous priez pour ça, pour que le Seigneur vous rende capable d'avoir une oreille, un cœur qui écoute, une oreille qui entend, d'avoir cette acuité spirituelle, cette capacité, cette perméabilité à l'esprit, cette possibilité d'entendre la voix de l'Esprit de Dieu, la voix du Seigneur. Nous devons, je crois, prier pour cela. C'est une nécessité, c'est quelque chose d'important de savoir reconnaître la voix du Seigneur. Il y a un exercice spirituel, et à force d'entendre parler le Seigneur, d'avoir affaire avec lui, bon, ben nous entendons facilement. Et je crois que cela nous sera d'un bénéfice extraordinaire dans le domaine des dons spirituels. Car, mes amis, comment pouvons-nous penser exercer le don de la parole de sagesse, ou de la parole de connaissance, ou du discernement des esprits, si nous n'avons pas l'écoute de l'esprit, si nous ne sommes pas habitués à recevoir, hein, nous pourrons avoir quelques interprétations de langue, ou quelques maigres petites prophéties comme ça, quelques petites exhortations par-ci par-là, mais c'est que une révélation de Dieu, mes amis, il faut avoir, c'est là qu'il faut trancher, hein, savoir si c'est mon cerveau qui travaille ou bien si c'est l'Esprit de Dieu qui opère, qui parle. Alors, il y a, à mon sens, pour nous, une nécessité de nous tenir dans la présence de Dieu et de prier pour cela. Maintenant, il y a aussi le fait d'ouvrir. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte. Ici, nous nous trouvons devant la réalité d'une action intérieure. Ouvrir, c'est notre volonté qui est impliquée. C'est nous qui sommes derrière la porte. C'est nous qui allons ouvrir. Le Seigneur ne forcera jamais la porte. C'est nous qui devons ouvrir. C'est nous qui devons faire le nécessaire. Il y a une manifestation de notre volonté. Il faut que nous soyons décidés à ouvrir la porte. C'est-à-dire, il faut que nous soyons décidés à établir notre communion avec le Seigneur, notre mutualité de communion avec lui. Il y a une détermination de notre part, et nous allons voir pourquoi il y a une détermination. Il y a une détermination parce que il y a toutes sortes de difficultés personnelles et extérieures qui s'oppose à ce que nous ouvrions la porte, c'est-à-dire que nous ayons avec le Seigneur cette communion. Nous avons des victoires à remporter. Nous avons des réalités à vaincre. Nous avons d'abord à vaincre notre chair, car pour passer du temps devant Dieu, il faut renoncer à des choses qui nous plaisent. Ainsi, par exemple, ce que j'ai remarqué parmi les serviteurs de Dieu, nous passons beaucoup plus de temps à discuter, certainement que ce que nous passons du temps dans la présence du Seigneur.
Nous aimons parler, oh non pas de choses futiles et vaines, des choses de Dieu, des choses du ministère, mais que de temps nous gaspillons. Il nous faut vaincre cette tendance de gaspiller notre temps. Certainement, c'est plus agréable à notre chair de discuter que de nous mettre à genoux tout seul dans notre chambre et de rencontrer Dieu et d'être là avec lui, non seulement dans le combat de la prière, non seulement dans la louange et dans l'adoration, mais aussi dans le silence, pour permettre au Seigneur de nous dire ce qu'il veut nous dire. Nous avons besoin de triompher de cette tendance de notre chair à préférer discuter plutôt que de nous tenir devant Dieu. Nous avons aussi à vaincre notre chair dans ce sens que pour nous tenir devant Dieu, il nous faudra quelquefois renoncer non seulement à la compagnie de gens avec lesquels nous sommes heureux de nous trouver pour nous placer dans la solitude avec le Seigneur, et nous sommes aussi quelquefois appelés à nous passer de ce que notre estomac désire. Nous serons appelés à nous passer de ce que notre corps désire, le sommeil. Nous serons appelés à renoncer à des repas, à des heures de sommeil. Et tout cela, notre chair ne l'aime pas trop. Notre chair, elle préfère son lit quand elle est fatiguée. Notre chair, elle préfère se mettre à table quand elle a faim. Eh oui. Et pour rencontrer Dieu, il sera quelquefois souhaitable de renoncer à ces choses-là. De renoncer à des habitudes prises ou à des activités qui nous sont particulièrement agréables, mais qui n'ont rien à faire avec la communion avec Dieu. Tout cela, c'est le combat, c'est la lutte, il nous faudra triompher de tout cela. Dans le domaine familial, ça ne sera pas toujours facile de laisser la femme avec les gosses et de se tenir isolé dans une pièce pendant un temps plus ou moins long. La femme respectera peut-être. Elle dira déjà que je te vois pas souvent avec tes visites et tes réunions, si tu te tiens encore enfermé. Eh oui. Il faudra vaincre cela. Il faudra gentiment lui dire, écoute ma chérie, tu sais, je suis serviteur de Dieu, hein. Alors il faut que tu m'abandonnes au Seigneur et que tu le comprennes. Eh oui. Il y a également nos occupations. Nous sommes des gens très occupés. Nous avons des visites à faire, nous avons des réunions à faire. Alors, il faut faire cela. Alors, quelquefois, pour faire une visite manquée, nous perdons toute une après-midi. On voit des gens qui ne sont pas chez eux. Nous aurions peut-être gagné du temps à nous tenir cet après-midi-là devant la face de Dieu. Et pendant que nous nous tenions devant la face de Dieu, prier pour ces gens, ça leur aurait fait certainement plus de bien. Et à nous aussi. Nous avons également
triomphé dans ce que nous appelons nos responsabilités, nos responsabilités vis-à-vis de l'Église, des chrétiens, etc., n'est-ce pas? Nous pensons que nos devoirs nous pressent, nous poussent à nous occuper des gens et à être là, à toutes les réunions, même si nous ne prêchons pas, même si nous ne faisons rien. Bah. Alors que l'Esprit de Dieu pourrait nous demander de rester chez nous et de nous tenir devant la face de Dieu et de recevoir dans ce moment-là quelque chose d'important. Ouais. Moïse avait des responsabilités à l'égard du peuple de Dieu. Il était responsable de plus d'une assemblée. Il avait plus d'un million d'individus sous sa coupe, là. Et puis alors, il y avait des rigolos, hein, des gens qui étaient drôles, hein, qui ont été capables de fabriquer un veau d'or et de créer une nouvelle religion. N'est-ce pas? Mais quand Dieu lui a ordonné de monter sur la montagne, eh bien, il est monté sur la montagne, et il est resté là pendant 40 jours et 40 nuits. Et le curieux, c'est que Dieu savait ce qui se passait en bas. Eh? Dieu savait que ça tournait mal. Dieu savait que le peuple était en train de faire des bêtises et de convaincre Aaron de devenir le chef d'une nouvelle religion. Et pourtant, Dieu n'a pas diminué le temps. Au bout de 40 jours et 40 nuits, il a dit à Moïse, « Bon, mais maintenant, dépêche-toi de descendre parce que ça va mal en bas. » Eh oui. Alors, est-ce que c'était inutile que Dieu retienne Moïse 40 jours et 40 nuits sur la montagne parce que ça allait mal en bas? Moi, je ne le crois pas. Je crois que Dieu est assez sage pour savoir ce qu'il a à faire. Et s'il a retenu Moïse tout ce temps sur la montagne, sachant pertinemment qu'en bas ça tournait mal, que ça allait mal, eh bien c'est parce que Dieu savait que même si Moïse avait été en bas, ça aurait aussi tourné mal et ça aurait tourné encore plus mal. Eh oui ? Ça aurait tourné encore plus mal parce que Moïse, n'ayant pas été aussi spirituel qu'il était, ayant passé 40 jours sur la montagne, quand Dieu lui a dit « Retire-toi et je détruirai ce peuple », Moïse, n'ayant pas été suffisamment spirituel, se serait retiré, il aurait fait détruire le peuple de Dieu et il n'aurait pas fait la volonté de Dieu. Mais ayant été spirituel, qu'est-ce qu'il a fait ? Il est remonté sur la montagne, il est resté 40 jours de plus et il a intercédé en faveur du peuple. Et Dieu ne l'a pas détruit. Voilà. Hein? La spiritualité que Moïse avait acquise pendant ce temps passé devant la face de Dieu lui a permis de rééditer et de remporter là une victoire. Hein? Car Moïse a montré sa spiritualité dans cette affaire. Il a dit à Dieu, « Mais Seigneur, mais si tu détruis ce peuple, que vont dire tes ennemis ? Ils vont dire que tu as été impuissant, incapable de le mener à bien, et c'est toi qui vas être déshonoré. » Quelle spiritualité il y avait chez ce bonhomme, hein ? Il a compris les choses comme elles devaient être comprises. Bon, s'il n'avait pas été aussi spirituel, il aurait pu se dire, allez, ça y est, je vais être débarrassé de toute cette malade de gens misérables qui me font les pires misères, et puis je vais me construire un peuple à moi. Et je vais rester celui-là. Voilà, le manque de spiritualité. Et oui. Hein? Alors, vous voyez comment le fait de passer du temps devant Dieu peut changer la face des choses. Que Dieu nous aide à comprendre cela. Si nous voulons triompher, mes amis, des multiples difficultés qui se présentent à l'heure actuelle dans notre mouvement, eh bien, disons-nous, que c'est seulement si nous élevons le mur et nous nous tenons dans la brèche, si nous nous tenons dans la présence de Dieu, non seulement pour intercéder auprès du Seigneur, pour que son esprit opère, agisse, non seulement pour le règlement des choses défectueuses, mais aussi pour que son esprit agisse vis-à-vis de nous pour nous faire croître spirituellement, pour faire de nous des hommes de Dieu valables, des hommes de Dieu capables d'écouter la voix de l'Esprit et capables d'être entre les mains du Seigneur des instruments de bénédiction abondante. Amen.
Amen.
Le Seigneur dit, voici je me tiens à la porte et je frappe. Si à la porte de chacun, hein, nous avons tous besoin, si c'est pas par rapport à un ministère spécial ou particulier, c'est en rapport avec tous les ministères. Enfin, je pense, je prends un exemple. Dans le chapitre 3 du livre des Actes des Apôtres, nous voyons Pierre et Jean qui vont au temple à l'heure de la prière. Il y a un boiteux à la porte de ce temple devant lequel ils sont passés X et X fois. Bon, jamais rien ne s'est passé, ils n'ont jamais rien dit à ce bonhomme. Bon. Ce jour-là, ils ont remarqué que le gars les regardait et qu'il attendait d'eux quelque chose. Bon. Est-ce que vous croyez que c'est l'imagination de Pierre qui a dit, ce boiteux, je vais le guérir? Est-ce que c'est sa volonté? Moi, je suis persuadé que c'est pas vrai. Je suis persuadé que c'est l'état de communion dans lequel Pierre était avec le Seigneur qui lui a fait recevoir de l'Esprit de Dieu cette conviction que cet homme-là, eh bien, c'était le moment de le délivrer. Il a eu cette conviction pour agir de la manière dont il a agi. Ça ne lui est pas venu comme ça au bout des cheveux, ça ne lui est pas venu comme ça, comme un éclair, n'est-ce pas? Non, c'est l'Esprit de Dieu qui l'a convaincu que il fallait délivrer cet homme. Et je suis persuadé que c'est l'Esprit de Dieu qui a mis dans sa bouche ces paroles. Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Ces paroles-là, elles sont pas du cru de Simon-Pierre. Elles sont du cru du Saint-Esprit. Hein? Et le reste, c'est du cru du Saint-Esprit. Le prenant par la main, il le fit lever avec la conviction que le Seigneur était là, hein, pour faire le reste. Qui est-ce qui n'a pas besoin, dans l'exercice de son ministère, de ces communications divines? Bon ami, quel que soit notre ministère, nous en avons besoin, à tout moment. Nous avons besoin de ces communications divines. Qui, dans son ministère, n'a pas besoin de ces communications divines pour apporter au peuple de Dieu une parole de connaissance ou une parole de sagesse?
Il faut être même convaincu que constamment on a besoin.
Mais sûrement.
Je sais pas, moi je me souviens au Maroc.
Il s'élevait au-dessus de Dieu.
Ouais, c'est vrai.
C'est vrai? Hein? Parce que de la manière de prier, ils ont l'air de dire à Dieu, Seigneur, moi, je suis plein de sentiments. Moi, je voudrais ceci, et toi, eh bien, tu n'as pas l'air de le vouloir. Hein?
Manière,
ils expriment
à Dieu ce que Dieu vient de les convaincre.
Justement, si nous tenons dans cette communion avec Dieu, si nous nous tenons dans la présence de Dieu, eh bien, je suis persuadé qu'il y a des quantités de choses que Dieu arrangera dans nos vies, dans nos rapports avec lui, dans nos rapports avec nos semblables, dans nos rapports avec les chrétiens, dans l'exercice, la manière d'exercer notre ministère. Oui, des quantités et des quantités de choses qui sont à remettre en ordre, à revoir, à arranger.
Parce que nos échecs, à ce moment-là, nous amènent aussi à une position ensuite tout à fait en retrait par rapport au ministère. Hein? Parce que si on dit, bon, je vais...
Moi, avec le frère Barbu, d'aller faire l'onction d'huile chez une sœur qui souffrait du ventre, qui avait eu déjà des tumeurs cancéreuses dont on l'avait opérée dans le ventre, et elle souffrait horriblement, elle déchirait ses mouchoirs tellement elle souffrait, elle avait les reins paralysés, elle ne pouvait pas bouger, elle était comme ça dans son lit, elle hurlait de douleur. On est arrivé là avec Barbuy pour faire l'onction d'huile. On était donc tous les trois, le mari, Barbuy et moi, et on a fait l'onction d'huile. J'ai prié de tout mon cœur. Barbuy a prié, je suppose qu'il a prié de tout son cœur aussi. Le mari a prié, et lui aussi il a prié de tout son cœur. Et les choses en étaient là. Au lieu de me lever et de dire au frère, bon, ben bon courage, le Seigneur va agir. Bon, je suis resté là, à genoux, au pied du lit, comme ça, à côté du lit, et cherchant le conseil de Dieu, je me disais, laisser ce frère avec sa femme dans un état pareil, c'est quand même terrible. On ne peut pas s'en aller comme ça. Alors, Seigneur, qu'est-ce qu'il faut faire? Et le Seigneur m'a montré d'une manière très claire que il fallait reconnaître la situation et il fallait se remettre à prier jusqu'à ce qu'on obtienne un résultat. Bon, alors, je me suis levé, j'ai dit à Barbu, j'ai dit, tu crois que Dieu t'a exaucé? J'ai dit au frère, j'ai dit, toi, Georges, tu crois que Dieu t'a exaucé? Il me dit, je sais pas. Eh bien, j'ai dit, moi non plus, je ne crois pas que Dieu nous ait exaucé, ni l'un ni l'autre. Alors, il faut se remettre à genoux, et il faut recommencer à bagarrer, parce que quand même, Dieu est capable de nous exaucer. Bon, on s'est remis là, en prière, on a recommencé à bagarrer, alors, non pas un après l'autre, mais là, tous les trois ensemble, on a crié au Seigneur, on a supplié, on a passé un temps assez long, là, à crier au Seigneur, et puis, nous avons loué le Seigneur, et finalement, au bout d'un moment, on s'est retrouvés, non pas tous les trois, mais tous les quatre, avec la sœur, en train de parler en langue, de louer le Seigneur, de glorifier, elle était assise sur le lit, et voilà. Le Seigneur avait opéré, il l'a délivré comme ça, instantanément, immédiatement. Bon. Si on était parti, eh bien, cette sœur, elle était capable de mourir. Alors, c'est là qu'on voit la nécessité d'être à l'écoute. Quand Pierre a ressuscité Dorcas, bon, on lui a demandé, mais est-ce qu'il l'a fait tout de suite? Non, il a fait cavaler tout le monde. Il s'est mis là au pied de Dorcas, de son lit, et il a prié, il a dit, Seigneur, qu'est-ce que je fais? Voilà. Parce que Pierre savait que lui, il n'avait pas le pouvoir de réveiller Dorcas. Si Dieu ne lui donnait pas, bon, ben, mon pauvre ami, ça marchait pas. Et certainement, c'est lorsque le Seigneur a mis dans son cœur par l'Esprit de Dieu, tu peux y aller, qu'alors il y est allé. Il a dit à Dorcas, au nom de Jésus, lève-toi. Alors, bien souvent, nous sommes arrêtés devant certains cas. Nous sommes pusillanimes, là, nous sommes étriqués, nous savons pas trop ce qu'il faut faire, et bien souvent, nous faisons rien du tout. Pourquoi? Parce que nous manquons de la conviction que communique le Seigneur. Nous avons besoin de ces convictions. Et il nous faut prendre cette habitude, et il nous faut pouvoir réaliser cela, et je suis persuadé que c'est seulement dans des temps passés dans la présence de Dieu que ces choses-là peuvent se produire. Ben, il y a des cas qui nécessitent et qui méritent que l'on prenne le temps. Et bien souvent, on perd un temps infini à aller visiter des gens pour rien du tout, ou pour pas grand-chose, alors qu'il serait infiniment plus important et plus bénéfique de passer ce temps devant la face de Dieu et de pouvoir obtenir des délivrances beaucoup plus importantes, beaucoup plus spectaculaires.